Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Human particulier à plus d'un titre. Tout d'abord parce que ce n'est pas Pierre-Alain Gourion qui anime aujourd'hui, mais moi, Madeleine Pochon. Et ensuite parce qu'il s'agit d'un Human confiné. Nous sommes actuellement, à l'heure où nous enregistrons cette émission, toujours confinés chez nous, en raison de la pandémie mondiale, du coronavirus ou Covid-19. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de changement sociétal. En effet, le déconfinement approchant, beaucoup de personnes s'interrogent sur le monde qui nous attend. Est-ce qu'on retournera dans un business as usual ou est-ce qu'on partira sur quelque chose de plus inédit, peut-être plus en accord avec l'écologie et les revendications qui montent d'un peu partout depuis ces dernières années? Et donc nous allons parler de tout ça avec Philippe Maquet. Philippe, bonjour.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Alors Philippe, vous êtes membre de Sexy, le collectif d'écosystèmes construits en symbiose. Est-ce que ça représente l'intégralité de vos activités ou est-ce que vous vous définissez autrement?
En fait, c'est une petite partie de mes activités, mais sachant que c'est aussi un espace de synthèse de tout ce que j'ai fait par le passé et qui vient se mettre en synergie à travers cette inscription dans ce collectif. Mais en fait, on travaille sur des notions d'archipel, donc on ne s'arrête pas à une entité, c'est très très vaste et c'est interrelié.
Et du coup, vous qualifiez de... Quel serait votre métier si on devait le définir?
Ah, alors ça, c'est toujours une question piège, parce que moi, ça fait, dans mon engagement personnel, ça fait pratiquement, depuis 2002 que je ne travaille plus. Donc, j'ai réussi à aménager ma vie de façon à ce que ce soit une démarche qui relie à la fois les aspects personnels, professionnels, associatifs, d'entreprise et tout ça, je dirais, dans une démarche qui est plus de l'ordre du jeu, entre guillemets, JEU, plutôt que du travail au sens du labeur, de quelque chose de contraignant. Donc, c'est plutôt un moteur d'épanouissement.
Et du coup, est-ce que vous faites partie des gens qui considérer qu'ils ont trouvé un travail qui leur plaît, donc ils n'ont jamais l'impression de travailler dans leur vie? Ou est-ce que votre travail est votre vie et les deux se mélangent?
Et ben en fait, c'est les deux, mon capitaine, parce que c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel et il n'y a plus du tout de contraintes et donc c'est un processus de vie. Et c'est plutôt d'avoir des modes compartimentés entre d'un côté la vie personnelle, la vie professionnelle, les loisirs, etc., qui est une sorte de schizophrénie en fait dans la vie, dans le monde dans lequel on fonctionne. Il y a cette sorte d'unité. Et donc, moi, j'arrive à me dire que c'est tout ce qui est de l'ordre du travail aujourd'hui, c'est globalement assez peu épanouissant. C'est plutôt une sorte d'asservissement. Et donc, cette émancipation de la valeur travail qu'on nous claironne quotidiennement et qui sous-tend des tas de comportements inconscients, réussir à s'émanciper de ça, je dirais que c'est déjà un luxe absolu dans la société dans laquelle on vit. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être partagé à la fois en réflexion, mais surtout en action. Donc, c'est globalement ce que le registre de nos activités, c'est de partager ça.
Et du coup, très prosaïquement, qui vous paye?
Alors, ça, c'est pareil. On parle beaucoup de développement durable. Moi, ça fait plus de 25 ans que je me suis attaché à explorer cette notion. Et le développement durable, c'est tel que je me le suis approprié en définition, en fait, et je remonte à une définition d'Épicure, donc il y a 2500 ans, et il demandait comment s'y prendre pour devenir riche. C'est pas en augmentant les biens, c'est en réduisant les besoins. Et à partir de là, l'aspect rémunération est nécessaire, bien sûr, dans le monde dans lequel on vit. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel très tôt, le pied mis à l'étrier dans le cadre d'une gestion d'entreprise familiale. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance, justement, dans ma vie, d'avoir cet accès professionnel très jeune. Et donc, j'ai eu aussi l'opportunité, en prenant comme modèle tout ce que mon père m'avait transmis en termes de valeurs, de mode de fonctionnement, mais qui correspondait à son ère culturelle, son moment, j'ai eu la chance de pouvoir analyser ça à la fois comme quelque chose de très favorable et en même temps de voir là où je ne voulais pas aller dans ce contexte de gestion professionnelle, des affaires, d'une manière d'être enfermé dans du toujours plus et toujours, cet enfermement économique dans lequel on gravite tous. Et donc, pour répondre à la question précisément, j'ai eu l'opportunité de réduire mes besoins, donc d'avoir accès à beaucoup moins d'argent et donc de me laisser beaucoup plus d'espace de liberté. Donc, j'ai réussi à ménager ma vie en ayant des ressources à minima et d'être beaucoup dans le don, le partage et la mise à disposition de ce que je pouvais apporter. Donc, financièrement, on a des capacités de mobiliser de l'argent à travers des projets qu'on mène, qui sont des projets à la fois sociaux, éthiques et économiques. Et chacun, dans nos démarches, en fait, va se contenter de son besoin réel, en fait, et pas forcément d'être dans cette spirale infernale du toujours plus. Et donc, quand on a accès à ça, ça nous émancipe de l'état d'enfermement dans lequel on est, les crédits, les vacances, la consommation, tout ça. Et donc, moins on a besoin de moyens et plus on est dans un espace de liberté. Et moi, cette période de confinement qu'on vit tous aujourd'hui, je l'assimile aussi en transposition, en métaphore, à une notion de confinement sociétal. On est enfermé dans de plus en plus de privations de nos espaces de liberté à travers des sortes de miroirs aux alouettes, en fait, dans la société. Et gagner de l'argent aujourd'hui, cette contrainte qui présuppose du travail pour vivre. Aujourd'hui, le travail pour vivre, c'est plutôt pour survivre, dans bon nombre de cas, parce qu'on a tellement de besoins qu'on n'a jamais assez. Et donc, moi, ce que j'ai eu la chance de découvrir, c'est que moins j'ai de besoins, plus je suis libre dans ma vie. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Je suis tout à fait conscient de la difficulté que ça représente. Et c'est la première question piège, en fait, c'est ça, au niveau professionnel. Et puis, j'ai réussi, j'ai la chance extraordinaire de pouvoir m'être émancipé de ça. Et donc, une de nos activités, c'est de réussir à trouver des modèles qui se mettent en partage à travers ça.
Et alors, vous parliez de votre travail au sein de cette entreprise familiale quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous avez été élevé dans une idée de développement durable et de réflexion de son temps et de son rapport à la nature et à l'environnement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé par vous-même, et si oui, à partir de quand à peu près ça vous est venu?
Alors, en fait, là aussi, c'est très paradoxal parce que j'ai été élevé dans un monde. Mon père est né 10 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc il a vécu des choses très difficiles. Il a été enrôlé de force dans la guerre d'Algérie, et dans les années 70, il a créé son entreprise. Et son modèle à lui, qui est tout à fait, je dirais, dans l'ère culturelle, c'était un modèle de devoir se battre pour s'en sortir dans la vie, parce qu'il est parti de rien, et il a construit son propre environnement économique. On était assez aisés, et un des leitmotifs qu'il avait, alors ça paraît très horrible comme ça, en gros, le caricature, mais c'est moi d'abord, les autres crèvent. C'était le mécanisme et le modèle dans lequel j'ai été éduqué. Ça, moi, je l'ai reçu dans mon modèle éducatif. Cet ancrage avec la nature, on l'a eu très tôt parce qu'on partait en vacances, on avait un cadre de vie qui était assez confortable et un contact non pas avec la nature au sens écologique du terme, mais un contact, on faisait du camping, etc. Donc ce contact nature, je l'ai eu très tôt, mais pas du tout dans le sens écologique. Plutôt, je dirais, en termes de souvenirs, de vie, etc.
Oui, c'était et donc, un rapport, déjà, une morale assez capitaliste au quotidien, et un rapport à la nature ancré dans les congés payés, le loisir, plus que dans le confort de l'homme par rapport à la nature, plus que dans une cohabitation réelle.
Tout à fait, oui. Donc c'est là où je dis que ce n'était pas du tout au sens écologique du terme tel qu'on peut le qualifier aujourd'hui, dans un mode de consommation et dans un type de mode de vie qui à l'époque était, c'était une sorte de lieu commun pour ceux qui pouvaient se le permettre.
La norme.
Et à un moment donné, effectivement, j'ai oublié, à titre personnel, parce que j'ai eu un certain nombre de marqueurs, de prises de conscience, et donc qui m'ont permis, moi, de passer en transition d'un monde à l'autre, tout en ne reniant pas mon vécu, en ne reniant pas mon passé, mais en trouvant des espaces, en fait, vraiment de transition à la fois radicale et en même temps douce dans leur mécanisme et dans leurs applications. C'est vraiment un cheminement tout à fait, je pense, particulier que j'ai eu la chance d'avoir.
Alors concrètement, c'était quoi ces marqueurs? Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, bien sûr, je m'en souviens parfaitement. Alors, il y a aussi un autre aspect historique, c'est que je me suis beaucoup intéressé à l'astronomie à titre personnel. Je n'ai pas fait d'études, j'étais à la limite très mauvais parce que moi, la méthode d'enseignement et la pédagogie de dire c'est comme ça, faut apprendre par cœur et c'est pas autrement, et ben, a toujours été quelque chose qui m'a énormément rebuté. Donc j'étais la personne à abattre dans les cours et je me faisais souvent tâter. Pour la petite anecdote, un jour un prof de physique me dit « Maquet, tu suis ?» et je lui réponds « Je pense, donc je suis ». C'est le genre de choses que les profs, ils n'aiment pas du tout. Et donc à chaque fois, moi j'étais un peu la tête de turc et je me faisais la tête. Et donc, un des aspects, c'est que je n'ai pas eu de cours, je n'ai pas été formaté. Et je me suis fait mon propre mécanisme d'instruction et l'astronomie, pour moi, était un modèle très intéressant. Et c'est un des marqueurs dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'astronomie m'a, les questions métaphysiques qu'on se pose, hein, m'a fait prendre conscience de cette planète qui est un grain de sable dans l'univers, en fait, et nous ramène à la proximité des enjeux écologiques. La question métaphysique, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? En fait, ramener ça au concret, c'est que soit la planète, elle est unique en son genre dans un univers infini, ou alors la vie dans l'univers, c'est quelque chose qui est complètement classique. Peu importe, en fait, la réponse, parce que aujourd'hui, on est en phase de s'auto-détruire et de détruire quelque chose qui est absolument magnifique. Donc cette portée, un des premiers éléments marqueurs, en fait, ça a été cette vision de l'astronomie ramenée à du concret, parce que pour moi, la notion de philosophie, de recherche, je suis pas tellement métaphysique en fait, mais par contre ça ramène à du concret, à de l'observation, et ça fait prendre des consciences qui sont extraordinaires. Donc ça, c'est le premier marqueur sur lequel je peux commencer à me situer en termes de regard sensible sur la vie, sur la beauté, sur ce qui nous entoure.
Donc la confrontation à l'univers immense, infini, et au fait que nous sommes peut-être seuls dans cet univers, c'est quelque chose qui, c'est vrai, donne le vertige, effectivement. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avant d'aborder plus en détail vos activités. Vous nous avez choisi Salia du groupe Touré Kunda. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
En fait, ça, j'ai choisi cette chanson parce que ça fait partie vraiment de cette période de ma vie où j'étais dans un mode de vie, de consommation, de vie assez confortable. Et c'est des souvenirs ancrés quand on faisait les fêtes dans Paris à l'âge de un peu plus que l'adolescence. Et c'est un groupe à l'époque, ça devait être dans les années 80-90, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, c'est un marqueur qui ouvre une période de vie et après il y a une sorte de, j'expliquais tout à l'heure, de transition. Donc voilà, c'est des petits souvenirs et c'est de la musique africaine, donc la musique du monde est tout à fait intéressante aussi à appréhender dans cette notion de diversité de vivant et diversité culturelle.
Super, on écoute ça tout de suite.
Salia, salia,
Et voilà, donc c'était Salia de Touré Kunda. Avant cette pause, Philippe, nous parlions de votre éveil aux problématiques de développement durable et d'écologie, et ce qui vous a mené petit à petit à créer, donc j'imagine, SEXI, cet acronyme qui signifie, je le rappelle, collectif d'écosystèmes construits en symbiose. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ?
Alors, je peux en parler. D'abord, j'en suis pas le fondateur. J'ai rejoint ce collectif il y a un peu moins d'un an maintenant. Et ça correspond à un parcours, justement, de transition personnelle à travers vraiment un engagement très concret depuis 1994, où mon questionnement personnel, c'est vis-à-vis des grands enjeux de société, vis-à-vis des grands chambardements qu'on observe, en fait, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux agir, je peux interagir? Et donc, ça m'a amené justement à passer de ce modèle très capitalistique, entre guillemets, et professionnel de gestion d'entreprise à une démarche, je dirais, investie autour de ces enjeux. Le collectif SEXI, en fait, c'est une structure qui s'est créée en février ou mars 2018, qui est à l'initiative de Patrick Schmedeuf. Et en fait, c'était une personne qui était risk manager à la SNCF. Et en prenant, je dirais, l'analyse des risques de la SNCF, il s'est trouvé confronté aux enjeux actuels dont on parle de plus en plus, de risques d'effondrement de nos sociétés, de risques systémiques, etc. Il s'est dit, la SNCF, par rapport à ça, c'était rien du tout. Donc, il s'est mis en démission de la SNCF et il s'est dit qu'il allait s'investir vraiment, cette notion de risque, sur quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Et à partir de là, il a créé ce collectif SEXI. Moi, je l'ai rejoint parce qu'on est rentré en contact, alors de mémoire, c'était en juillet 2019, donc à peu près à une année d'existence de ce collectif. Et moi, mon parcours a été tout à fait, je dirais, dans la ligne directrice de cette idée de symbiose. En gros, je vais essayer de le retracer pour faire très, très court. Et comme j'ai commencé à m'orienter sur mes projets, personnel, je travaillais dans l'édition d'imprimerie publicitaire et j'ai eu l'idée de créer un journal. On était à l'époque des manifestations des jeunes étudiants en 1994, à l'époque d'Edouard Balladur, qui a engagé une grande consultation nationale des jeunes. Moi, j'étais embêté parce que j'avais 26 ans et c'était limité à être à moins de 26 ans, en fait. Et donc, j'étais pas content parce que j'ai pas pu répondre à cette consultation. J'ai écrit à Edouard Balladur, en fait, en lui disant que j'étais pas content que je pouvais pas y répondre. Et je me suis dit, si je peux pas y répondre, tant pis, je vais créer mes propres projets. Donc, j'ai créé un journal. Ce journal, c'était sur la nature et l'environnement. Comme je le disais, je m'intéressais à l'astronomie. J'ai eu l'idée de l'appeler Novae Environnement. L'idée, c'était une Novae, c'est une étoile qui est nouvelle, qui apparaît dans le ciel. Seulement, c'est pas une étoile qui est nouvelle, c'est une étoile qui meurt. L'idée, c'était de montrer, il y a toujours plusieurs facettes d'observation des problématiques. Et donc, c'était d'aborder autrement que l'environnement, en fait, c'est un problème parmi tant d'autres. On a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes d'environnement. Moi, l'idée, c'était plutôt de dire, non, le problème d'environnement, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la structuration même de l'organisation de nos sociétés. Et donc, ce journal avait pour vocation de relier d'un côté des acteurs qui agissaient vis-à-vis de ces problèmes, qui souvent avaient peu de moyens et avaient du mal à se faire connaître. Et à l'époque, déjà, il y avait de plus en plus de monde qui avait envie d'agir, mais qui ne savait pas comment. Et donc, l'idée du journal, ça a été de créer un aspect de reliance pour connecter ceux qui voulaient agir avec ceux qui agissaient. De cette expérience de journal, deux aspects intéressants, c'est que d'abord, moi, je n'étais pas journaliste, j'y connaissais rien, donc je me suis auto-formé. Et l'idée, c'était de dire, on va travailler sur un mode coopératif, on va travailler sur des complémentarités et on a eu l'idée d'ouvrir la rédaction à tous ceux qui voulaient participer. Ce qui a généré une démarche très plurielle, très coopérative. Et une des cibles privilégiées, c'était les jeunes, considérant que c'était les acteurs de demain, en fait, et qu'on leur léguait quand même quelque chose d'assez triste en termes d'héritage. L'idée, c'était de dire, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je vais pouvoir transposer mes acquis et les mettre en partage pour permettre justement de s'outiller et d'avoir des expériences pour aborder les enjeux du futur. Et donc, c'est comme ça que ça s'est défini. De fil en aiguille, pendant ces 25 années, on a développé des tas de projets à l'interface entre un journal, c'est une approche théorique des enjeux de l'environnement, de l'écologie. On a développé des activités très concrètes de nature pour finalement se dire si notre problème, c'est une manière dont on vit la nature ou dont on est coupé de la nature. On a eu l'idée d'inventer une activité qui s'est appelée la randonnée arboricole. L'idée, ça consistait à emmener les gens se promener à la cime des arbres. Non pas dans un cadre de loisirs sportifs, mais dans un but de découverte et d'immersion dans la vie, dans la biodiversité, dans le vivant.
Quand vous dites la cime des arbres, excusez-moi, quand vous dites la cime des arbres, ça veut dire que vous grimpiez dans les arbres avec les gens? Ah oui.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Et quand même, c'est quand même assez sportif, même si l'idée de loisirs sportifs n'est pas derrière, ça reste une activité qui demande une certaine forme physique.
Alors, pas forcément, ça c'est l'idée qu'on se fait en fait, mais si on prend des fables comme le baron perché, il y a un imaginaire très puissant en fait de la vie dans les arbres, de tout ça. Voilà, on a un ancrage culturel qui est inconscient mais qui est très puissant, et les techniques reposaient sur de la spéléologie. En gros, la personne qui a mis ça au point, c'est un spéléologue, donc qui utilisait des techniques pour descendre sous terre, à un moment donné, il est sorti de son trou et il a voulu prendre l'air. Et en fait, c'est des activités qui peuvent paraître très sportives, mais on a appelé ça justement randonnée arboricole parce que c'était dans l'idée de le mettre à la portée de tous. Et on est équipé de baudriers, on est équipé de techniques qui nous permettent de grimper le long de cordes, non pas à la manière d'escalade, mais avec des bloqueurs, donc des pièces mécaniques qui nous permettent de grimper sans trop d'efforts. Et toute la métaphore utilisée, justement, c'était de dire on se remet en tant qu'être humain dans l'écosystème et non plus à l'extérieur d'eux. Et par exemple, on organisait des bivouacs en hamac à la cime des arbres, on faisait des conférences au sommet, donc des choses hyper ludiques. On organisait des parcours de passage d'arbre en arbre, mais avec des temps d'observation, de découverte de la nature, de toute cette vie, en fait, qui est présente et qu'on ignore.
Est-ce que ça permet pas aussi de se rendre compte que en tant qu'homme, en tant qu'humain, on est extrêmement vulnérable et on a besoin justement de beaucoup de techniques pour vivre dans la nature. Vous parliez des hamacs ou du fait que vous étiez presque tracté en fait quelque part, si c'était pas forcément par le fonctionnement des muscles, mais par le mécanisme de la corde que vous faisiez monter les gens. On se rend compte que l'homme dans la nature est une proie extrêmement facile quelque part et a besoin de beaucoup de matériel pour se sentir en sécurité. Ça
ouais.
Permet aussi de dresser une réflexion autour de ça, je trouve.
Alors ça, cette activité, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'elle était d'une puissance pédagogique au-delà du mot, au-delà du verbe, en fait c'était par le vécu. Et imaginons qu'on se retrouve à 25 mètres de haut sur une branche, en fait, on est complètement sorti de son environnement. Il y a des mécanismes émotionnels qu'on est obligé d'appréhender pour s'adapter à ce nouvel environnement, aller puiser au fond de ce qu'on est en tant qu'être humain et comment on vit ces émotions-là, pour les apprivoiser, pour s'adapter et pour dépasser, je dirais, l'épreuve du vertige, l'épreuve de la peur, etc. Donc il y a une multitude de choses qu'on a pu révéler, effectivement, et avec cette idée...
Non mais pardon, je voulais juste savoir quel était à peu près le genre de personnes que vous faisiez grimper. Est-ce qu'il y avait un groupe socioculturel particulier ou est-ce que ça c'était vraiment tout le monde qui a profité de ça?
Notre choix, ça a été d'être tout public, mais vraiment au sens très très large du terme. Ça va de l'enfant de 2 ans, c'est-à-dire juste marchand, jusqu'à la personne du troisième âge qui participe à nos activités. Ça a été avec des jeunes en difficulté d'insertion, sur lequel on a développé des pratiques pédagogiques qui valorisaient les individus qui, soi-disant, étaient en échec dans la société. On a eu des entreprises, on a une infinité de publics, et c'est toute cette pluralité, justement, qui nous a permis de mettre en place des modèles très puissants en termes de pédagogie, et donc qui nous ramenaient, revenir au sujet, après une grande boucle autour de sexy, qui nous ramène à cette notion de symbiose, en fait. La symbiose, c'est pas quelque chose qui va se décréter, c'est pas quelque chose qui se décide de façon selon un système moral, en fait. C'est quelque chose qui nous raccroche en ancrage profond à notre histoire d'être humain connecté à la nature. Et effectivement, je pense que cette notion de vulnérabilité que vous évoquiez, elle est absolument fondamentale. L'être humain est probablement la seule espèce qui est inadapté à son environnement, en fait. Et il a dû développer des stratégies d'adaptation, parce que la preuve, il est encore là, après des millénaires d'évolution. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que ces stratégies-là ne sont plus adaptées parce que on s'est constitué en tant qu'être humain hors sol, c'est-à-dire en dehors de son écosystème. Et quand je parlais de nouvel environnement, autre manière de voir, bah finalement, on cherche à régler des problèmes avec le même état d'esprit qui crée le problème, avec le même mode de pensée qui crée le problème. Et la technique, c'est à la fois quelque chose qui peut être potentiellement extraordinaire, qui nous a permis de survivre en fait, et d'évoluer. Et aujourd'hui, on est dépassé par la vitesse d'évolution de la technique, de la technologie, et notre cerveau reptilien n'est plus en capacité de reconnecter en fait à ces temps d'évolution en fait. Et donc, on a toute une reconnexion à notre réalité biologique, nos mécanismes profonds à opérer pour produire justement non pas un changement de société, non pas un changement structurel, mais un changement de nos propres consciences, de notre propre position, notre place dans, je dirais, dans la société, sur la biosphère et même en représentation par rapport à notre place dans l'univers.
Mais est-ce que vous pensez que ce changement de notre perception dans notre place dans l'univers, est-ce que vous pensez qu'il est faisable sans un changement de société, justement? Est-ce que vous pensez que l'humain seul se suffira, l'individu seul se suffira? Parce que de ce qu'on peut observer actuellement, le pouvoir de nuisance d'une puissance politique ou économique paraît supérieur au pouvoir de bienfaisance d'un groupe d'individus. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, avec, dès qu'on a un homme politique qui ne croit pas au réchauffement climatique, on peut voir ça avec Bolsonaro au Brésil, les dommages qui sont réalisés sur l'écosystème brésilien sont bien supérieurs à ce que un groupe d'individus pourrait contrer, malheureusement.
Alors là, on touche vraiment le cœur du sujet. En gros, si on retrace l'histoire de l'humain et globalement de l'Occident, chaque société humaine, en fait, quand on parle de culture, c'est une adaptation à son écosystème, en fait, une adaptation des sociétés humaines à son propre écosystème. Chaque société a cette double compréhension de ce qu'il est dans sa société humaine, dans son collectif, et en même temps de sa place dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie, en fait. Chaque société a une représentation de sa place dans l'univers. L'Occident a quelque chose de très particulier, c'est qu'il a amputé globalement l'ensemble des individus, en fait, de sa dimension spirituelle intérieure et de sa place dans l'univers. Cette double amputation, en fait, nous a complètement déconnecté de notre nature biologique, et à partir de là, il y a des mécanismes où notre cosmogonie, en fait, notre croyance a été de dire bah, c'est le progrès, c'est la science, c'est le bonheur va venir non pas de la spiritualité, mais du matérialisme. Et ça, on a toute cette construction idéologique qui s'est faite. Aujourd'hui, on voit bien que cette idéologie, en fait, est... Tous ceux qui vont contre cette idéologie, on les a qualifiés d'utopistes. Mais en fait, la vraie utopie, c'est celle qui n'est pas connectée au réel, qui se transforme en dystopie. La dystopie, c'est le contraire de l'utopie, en fait. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est une catastrophe absolue. Et la croyance, d'une croissance infinie dans un monde fini, c'est l'exemple type, en fait, de quelque chose, une construction mentale qui est, poussé à ces extrêmes limites. Et les enjeux écologiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est précisément qu'on commence à se prendre tous les effets boomerang de ça. Et donc, il y a effectivement encore beaucoup d'idéologies, et cette idéologie, en fait, elle est portée par de moins en moins de monde, puisqu'il y a de plus en plus de victimes, en fait, des contre-coups, des effets boomerang de ça. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que politiquement, en fait, à travers nos processus démocratiques, on s'est laissé préempter tous nos espaces de liberté. C'est pour ça que je parlais de confinement sociétal. ces espaces de liberté, en fait, par des principes de démocratie représentative. On met au pouvoir des gens qui sont dans cette idéologie de croissance infinie dans un monde fini et qui prennent toutes les décisions qui sont complètement contraires à nos consciences culturelles, en fait. Et aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il faut simplement, je dis simplement entre guillemets, hein, c'est un gros enjeu, parce que il faut simplement reconnecter avec nous. C'est pour ça que je parlais de nos mécanismes profonds, qu'est-ce qu'un être humain, en quoi, quelle est ma place dans la société et, je dirais, quel rôle je peux tenir. Et dès qu'on reconnecte ça, en fait, bah, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, si on sort de ce mode de pensée qui est enfermant et qui nous amène, je dirais, à un peu comme dans une cage de hamster, en fait, on boucle sans cesse sur les mêmes problématiques et les mêmes fausses bonnes solutions. Donc, pour nous, l'idée, c'est se reconnecter très concrètement à ce qu'on est en tant qu'être humain. La notion de symbiose qui est évoquée à travers le collectif sexiste, c'est exactement ça. La symbiose, c'est quoi? C'est, prenons l'exemple le plus typique, c'est un lichen. C'est quoi? C'est deux espèces, un champignon, une algue, qui s'associent pour former un lichen. Et là où les deux espèces ne pourraient pas vivre sur un milieu donné, par exemple un mur ou un tronc d'arbre, le lichen, par cette association, à bénéfice réciproque, va y parvenir. Si on met ça, je dirais, dans le champ de la société, bah, la notion de symbiose, c'est aujourd'hui l'humanité, avec un mode, un fonctionnement à l'occidental qui s'est mondialisé, est dans une impasse évolutive parce qu'on vit exclusivement sur des modes compétitifs, sur des modes extractivistes par rapport à toutes les ressources naturelles. Cet extractivisme, en fait, va combler des vides. Et ces vides vont être comblés par rapport à de la consommation, de la surconsommation, des choses qui sont complètement virtuelles et qui correspondent à des faux besoins, en fait. Donc ça, c'est le monde dans lequel on est. À partir de ce moment-là, essayons de voir cette notion de symbiose comme l'association des individus, c'est-à-dire, finalement, passons de la compétition à la coopération. Cette compétition est dramatiquement mortifère aujourd'hui et nous envoie dans le mur. La coopération, c'est un mode qui permet finalement de passer un cap évolutif, de sortir de notre impasse évolutive dans laquelle on est, en sachant que si on continue le fameux business as usual, en fait, on sait très bien que ça nous condamne. Et aujourd'hui, les mécanismes sont tellement puissants, il y a tellement de verrous de tous les côtés qu'on est a priori emprisonné dans ce modèle compétitif. Et nous, ce qu'on a simplement ouvert, c'est ce qu'on peut appeler une voie de sortie, en fait, une bifurcation, c'est de pouvoir passer d'un modèle à l'autre, modèle compétitif versus coopératif.
Alors, on va continuer à parler de cette bifurcation et de ces différents modèles, mais après une courte pause musicale, vous nous avez proposé Mi Tombo de Rossi. C'est parti. We'll be right back. Alors vous êtes bien dans Human, le podcast de l'humanitaire et de l'écologie, et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Maquet. Donc c'était Mi Tombo de Rossi. Est-ce que Philippe, vous pouvez nous parler de ce morceau ?
Alors en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir une expérience très particulière, et ça a été le deuxième marqueur pour moi de découvrir Madagascar dans les années 90 à travers un voyage dans un cadre familial. Et c'est là pour moi un grand moment de conscience et de rupture entre le modèle capitalistique dans lequel j'évoluais et de découvrir une société humaine en fait qui repose sur un niveau matériel absolument minime et qui en même temps sont dans des dimensions de partage, de dons et de richesse culturelle. Et pour moi vraiment ça a été un déclencheur très fort, Madagascar, en termes d'expérience, pour comprendre que la réalité qu'on m'avait inculquée, c'était juste un éclairage, en fait, de la réalité du monde, et que j'ai eu besoin, à partir de ce moment-là, d'avoir une vue à 360, et ça a été vraiment le moteur de mon engagement autour de toutes ces démarches qui relient à la fois philosophie, science, spiritualité, approche d'une écologie vue autrement, et donc voilà, ça a été un grand mécanisme de transition, mais toujours orienté sur l'action concrète.
On a parlé des actions et des idées mises en place par d'abord vous, puis Sexy. Quand vous faisiez par exemple les randonnées randonnée à la cime des arbres, j'ai oublié les terminologies exactes.
Randonnée arboricole.
Voilà, randonnée arboricole, merci. Vous le faisiez au sein de votre propre entreprise, j'ai envie de dire, c'est ça, c'était quelque chose que vous aviez monté par vous-même. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de la situation qu'on vit actuellement, je veux dire dans la situation du confinement, donc dans notre histoire vraiment contemporaine. Qu'est-ce que ce confinement a interrompu ou a fait nourrir dans votre réflexion et dans votre action ?
Alors, en fait, on parle souvent de crise. Et moi, ce terme de crise, j'ai plutôt envie de le mettre entre guillemets parce qu'il est très trompeur. La notion de crise, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin et que, passé cette crise, en fait, on peut reprendre le cours normal des choses. Là, je pense qu'il n'y a rien de plus erroné que ça. Et moi, mon parcours, justement, entre les années 90 et aujourd'hui, sauf à se dire qu'une crise, c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée et qu'on a des mécanismes, en fait, tels que la crise du Covid, l'apparition d'un pathogène, ça correspond simplement à une explication et à une suite logique de tout un tas de mécanismes de nos fonctionnements, voire de nos dysfonctionnements de société. Et donc, moi déjà, cette notion de Covid, elle n'est pas étonnante dès lors qu'on est un tout petit peu en observation de ce qui se passe en termes de mode de fonctionnement, de modèle économique, de choses qui nous passent très clairement au-dessus de la tête depuis des décennies. Et là, on commence à en voir très concrètement les effets qui vont plus toucher l'autre bout du monde, mais vont nous toucher nous, dans nos réalités et dans nos vulnérabilités. Donc, ce que ça a changé, en fait, c'est que nous, ça fait des années qu'on est engagé dans des projets de démarche pédagogique, de sensibilisation, etc. Ben, finalement, là où on a besoin, dans nos pédagogies, d'activer ce qu'on appellera des déclics de conscience, en fait, de sensibiliser de façon fine, parce que plus on va être dans une posture idéologique de dire il faut changer, il faut arrêter de vivre comme on vit, etc., et plus on met les gens en blocage et en déni. Donc là, ce qui a changé et qui est extraordinaire finalement, c'est que il y a une ce qu'on peut appeler en psychologie une métanoïa qui s'est opérée. En gros, pour le traduire, c'est rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas vécu. Et donc, la pédagogie, c'est de produire des mécanismes de déclic de conscience. Là, malheureusement, dans le malheur qui se produit aujourd'hui, ce déclic de conscience, il est global, il est mondial. 3,5 milliards d'êtres humains confinés en même temps par rapport à une chose invisible, là, ça montre clairement nos vulnérabilités et les faiblesses de nos organisations, de nos sociétés humaines. Donc ça, c'est un changement et ça démontre clairement que d'une chose noire, en fait, et ça, c'est un des mécanismes qui est super important à activer, d'un côté noir, il y a toujours un côté positif. la crise en Occident, c'est quelque chose qui est, je dirais, voilà, qu'il faut refouler parce que on a peur, on veut pas. Là, en Orient, il y a une calligraphie chinoise qui se nomme le JJI. La crise, c'est un moment qui montre soit un dysfonctionnement général et donc qui se qualifie comme une opportunité de changer nos modes de fonctionnement. Donc de passer d'un niveau d'évolution à un autre. Et en fait, l'Occident, il est complètement incapable de ça. Donc cette notion de J, d'opportunité à saisir, là, on est en plein dedans. Et donc, nous, on a activé un certain nombre de choses dans ce mode de confinement pour accompagner cette métanoïa, parce que la métanoïa, c'est une prise de conscience générale. Un exemple de métanoïa qui s'est produit, c'est le 11 septembre 2001. Si on demande où est-ce que vous étiez et qu'est-ce que vous faisiez, 99% des personnes en âge d'avoir vécu
cette période
sont capables précisément de répondre à ça. Mmh. Donc, il y a un marqueur à la fois individuel et collectif qui s'inscrit en instantané dans, au niveau mondial, en fait. Là, il se produit exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métanoïa, c'est un mécanisme qu'il faut transformer. C'est une sorte de terreau favorable, de conscientisation. Et il y a un niveau de conscience qu'on peut qualifier d'inconscient, donc les choses nous passent au-dessus de la tête. Il y a un niveau de conscience qu'on peut qualifier de conscient. Voilà, il s'est produit cette montée en conscience globale de nos vulnérabilités. Et il y a un troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience transformée. Cette conscience transformée, c'est comment passer de la métanoïa à la métamorphose, en fait. La métamorphose individuelle et la métamorphose sociétale. Donc, on a, au cours de ce confinement, on a mis en place tout un tas de dispositifs, de projets sur lesquels on travaillait bien évidemment en amont de cette crise du Covid pour accompagner la sortie du confinement, ce qu'on appelle le post-Covid, interroger qu'est-ce qu'on fait de cette expérience, comment on peut scénariser les futurs possibles, comment on peut identifier ce qu'il faut conserver de nos modes de vie antérieurs parce qu'il ne faut pas tout jeter en l'eau et dire que tout est mauvais, mais surtout de quoi il faut absolument se libérer pour profiter de cette expérience et en faire quelque chose, non pas de positif par rapport au drame que ça provoque chez les individus et toute cette, je dirais, c'est les conséquences négatives de ça. Mais en fait, comment est-ce qu'on est capable de prendre cette expérience-là, de la retourner et d'en faire quelque chose qui nous donne l'opportunité de changer, non pas radicalement de mode de fonctionnement, mais de façon... Alors, ce qu'on dit, nous, c'est une sorte de radicalité de l'intention et une souplesse dans la mise en œuvre de ces changements. Il faut être à l'interface entre ces deux univers, en fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on ne veut plus et se donner le temps de tendre vers ce qui est souhaitable et désirable.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de programmes que vous allez mettre en place à la suite du confinement ?
Alors, en fait, le collectif Sexy, il s'est construit justement par ce rapprochement de compétences autour de la notion de symbiose. On a conçu une démarche qu'on a appelée archipel en symbiose. Et la notion d'archipel, en fait, elle est très puissante parce que aujourd'hui, notre société, elle est organisée, on peut dire, pour prendre la métaphore, en mode continental. C'est-à-dire qu'on est une sorte de bloc uniformisant, un bloc globalisant et une pensée unique. Donc là, c'est l'image du continent, telle qu'on peut le qualifier. La pensée en archipel, en fait, c'est donc cette notion de globalisant ou d'uniformisant, c'est tout sauf résilient. C'est-à-dire qu'aucune capacité d'absorber des changements globaux comme cette crise du Covid. La pensée en archipel, en fait, c'est justement de promouvoir une autre manière d'aborder le monde, une autre manière de voir l'organisation de nos sociétés et de trouver justement comment cette vision en archipel qui est à la fois très poétique, qui est en même temps très pragmatique, va pouvoir permettre à chacun de s'approprier un nouveau mode de pensée, en fait, de ne pas retourner à ce qu'on connaissait avant et en même temps de naviguer dans l'inconnu, en conscience, en confiance, parce qu'on ne sera pas seul dans ce cheminement, on sera organisé en collectif. Et l'idée, c'est de créer de la reliance, de créer des, vraiment des espaces de connexion entre les projets, les individus et les organisations. Alors, cet archipel en symbiose, en fait, il a pour première visée d'accompagner la mise en résilience des territoires. Ce qu'a révélé, par exemple, cette période du confinement, c'est de dire, si jamais il y a des ruptures d'approvisionnement de denrées alimentaires qui viennent souvent de l'autre bout du monde et qui font 5 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos assiettes et dans nos espaces de consommation, ce qu'on appelle les circuits longs qui sont émetteurs de carbone, etc., qui sont une vraie catastrophe en termes de mode de production et d'effets impactants sur l'écologie. Aujourd'hui, on parle de circuits courts. Ces circuits courts, vis-à-vis des habitants d'une commune, d'une communauté de communes, comment on va pouvoir les accompagner, les privilégier, les mettre en réseau autour d'espaces de création d'ateliers de permaculture, de lobbies citoyens pour que les élus qui sont encore peu conscients de ces notions de nouveaux modèles économiques en fait, puissent en même temps s'approprier ça. Donc ça, c'est très concrètement, en fait, l'idée, c'est d'organiser un réseau coopératif et de relier le maximum d'initiatives qui sont prises dans ces aspects de résilience territoriale et surtout de travailler sur de la pédagogie pour que l'ensemble des habitants puissent être partie prenante des choix que vont faire les territoires pour justement aborder cette transition, non pas d'un mode pyramidal qui nous est imposé, on ne sait pas par quelle volonté ou par quel arrière-plan idéologique, mais que ce soit les habitants qui apprennent à décider par eux-mêmes et donc à se mettre en apprentissage de qu'est-ce que la coopération, qu'est-ce que des nouveaux modes de gouvernance qui permettent de sortir de cette démocratie représentative qui est à la fois intéressante mais très incomplète. Donc c'est organiser des ateliers, organiser des mises en commun, des reliances entre les projets. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et à connecter avec ce qui existe déjà, à part réinventer ce qui se fait.
Très bien. Eh bien, merci pour cet entretien, Philippe Maquet. Est-ce qu'on peut retrouver vos travaux? Est-ce qu'on peut vous rejoindre si on a envie de s'investir dans votre projet quelque part?
Alors, on a une plateforme qui s'appelle Biocene, bio-scene.org. On a évidemment des adresses mail, contact@biocene.org. Il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas si on peut le donner aussi, pour faciliter les connexions. Donc, c'est le 06 83 73 14 59. Et il y a toute une démarche de projet qui vise justement à permettre à chacun qui voudrait se mettre dans une posture de changement de ne pas se retrouver tout seul, d'être accompagné et de promouvoir, je dirais, des démarches coopératives.
Eh bien, merci. C'était Human, une émission présentée exceptionnellement par Madeleine Pochon. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci, au revoir.
Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.